RFI, il est minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Une édition présentée par Nemo Ampis. Bonsoir Nemo.
Bonsoir Juliette, bonsoir à tous. En Guinée, l'Église catholique se positionne sur la durée de la transition. Elle appelle les autorités à clarifier son calendrier et interpelle l'opposition et la société civile pour bâtir un nouveau dialogue inclusif. Mahamat Idriss Déby, visé par l'ouverture d'une enquête préliminaire en France, on reproche notamment au président tchadien des dépenses s'élevant à plus de 900 000 euros pour des achats de vêtements de luxe. Nouvelle tentative de rassemblement au Kenya. Après une semaine de contestation réprimée dans le sang, la jeunesse a appelé à se réunir contre la du gouvernement, mais a vite été heurté aux forces de l'ordre. Et puis on vous raconte l'histoire du jeune Moussa Sako, ce Malien de 25 ans arrivé en France 20 ans plus tôt, qui a été expulsé ce mardi alors qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire à expulsion malgré une nouvelle mobilisation des passagers d'un vol Paris-Bamako. En Guinée, autour de l'Église catholique de se positionner sur la gestion de la transition, dans une lettre ouverte datée de début mai mais jamais rendue publique, que la conférence épiscopale invite, c'est dans cette lettre que la conférence invite les autorités à clarifier d'urgence leur calendrier, le tout en précisant son programme, sa stratégie et ses objectifs. Autre passage à retenir de cette lettre, cet appel aux partis politiques de l'opposition et à la société civile afin que toutes les parties définissent ensemble, je cite, un nouveau cadre de dialogue réellement inclusif pour éviter tout embrasement dans le pays. Plus de détails avec Sidi Yansane.
C'est lors du pèlerinage catholique de Bofa, il y a tout juste 2 mois, que cette lettre a été rédigée. Les évêques avaient pris la peine de la lire face caméra et d'envoyer l'enregistrement à la télévision publique RTG, qui ne l'a jamais diffusée à l'antenne, d'après les signataires. Ce n'est qu'en début de semaine que des sites d'information guinéens l'ont exhumée. Les évêques dressent un tableau inquiétant de la situation. Chômage, inflation, pénurie d'eau et d'électricité, insécurité grandissante dans un pays qui semble sans gouvernail, dit le message, qui souligne aussi des difficultés aggravées par le manque de visibilité dans l'orientation de la transition. Père Louis Bilimou est le secrétaire général de la conférence épiscopale de Guinée.
Il y a déjà des partis politiques qui sont en train d'annoncer des grèves concernant ce manque de visibilité sur le chronogramme qui concerne la transition. Bon, disons, au fur et à mesure que nous avançons vers la fin de cette transition qui avait été annoncée, donc il ne peut pas y avoir de changement ou bien de prolongation sans que ce soit en accord, en harmonie avec les uns et les autres, pour éviter qu'il y ait des grèves, qu'il y ait des soulèvements, donc ceux qui pourraient agir sur l'ordre social.
Les évêques de Guinée interpellent les autorités sur leur mutisme, qui est, je cite, « source d'angoisse et de peur ». Ils tendent également la main aux opposants et à la société civile, afin que toutes les parties calment les tensions au lieu de souffler les braises.
Sidi Yansane, pas loin de 185 personnes touchées par de légères intoxications après avoir avalé du poisson et bu de l'eau contaminée. Cela s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et à l'origine de la contamination de ce cours d'eau, un déversement de déchets miniers issus de la mine d'or d'Ity, exploitée par le groupe canadien Endeavour Mining, qui lui assure qu'il n'y a plus aucun danger. Du côté des autorités locales, même son de cloche. Binta Diagne est à Abidjan pour RFI.
Dimanche 23 juin, la vanne d'un pipeline utilisé pour évacuer des déchets miniers se fissure. Près de 3 mètres cubes de boue et d'eau de décantation se déversent alors dans un canal de dérivation sur près de 5 km et une petite partie aurait pu être déversée vers la rivière Cavalli, affirme le groupe minier. Les scientifiques du CIAPOL, le centre ivoirien anti-pollution, dépêché sur place, recueillent près de 15 kilos de poissons morts, indique une source proche du dossier. Le préfet de Zouan-Ounia recense 185 personnes souffrant de diarrhée, de ballonnement ou de vomissements après avoir consommé de l'eau et des poissons. La société minière assure que cet incident a depuis été circonscrit. Ce groupe rejette catégoriquement les allégations de pollution massive du fleuve Cavalli et de mise en danger des populations locales, lit-on dans un communiqué. Un second incident serait survenu samedi 28 juin, selon le CIAPOL, qui s'est déplacé pour y faire de nouveaux prélèvements. Les résultats n'ont pas encore été rendus publics. Le groupe Endeavour assure qu'aucun autre incident ne s'est produit. En attendant d'y voir plus clair, les autorités locales ont interdit la pêche et demandé aux habitants de ne pas boire l'eau du robinet, indique un élu local. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
RFI, minuit 35 ici à Paris. Une enquête préliminaire ouverte en France à l'encontre du président tchadien Mahamat Idriss Déby. Elle porte sur des soupçons de biens mal acquis. Une source proche du dossier a pu confirmer à RFI ses investigations concernant les dépenses vestimentaires de la présidence. En fin d'année dernière, Mediapart, dans un article, faisait état de dépenses qui s'élevaient à plus de 900 000 euros pour l'achat de costumes, de chemises et autres vêtements de luxe. Lisa Fabian.
Dans son enquête, Mediapart révélait des versements opérés depuis une mystérieuse société baptisée MHK Full Business, enregistrée à N'Djamena et disposant d'un compte au sein de la banque commerciale du Chari. Le premier virement suspect aurait été réalisé par Mahamat Idriss Déby début décembre 2021, le second en mai 2023. Au total, le président tchadien aurait déboursé plus de 915 000 euros pour acheter des vêtements de luxe chez un célèbre tailleur parisien. La liste dressée par Mediapart donne un aperçu des folies vestimentaires qui aurait permis d'atteindre une telle somme. Notamment 57 costumes d'une valeur unitaire allant de 9 000 à 13 000 euros, 100 chemises à 800 euros pièce ou encore 9 sahariennes à 7 500 euros chacune. Une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et recel a donc été ouverte en France au mois de janvier et selon la presse française, les investigations pourraient être élargies au patrimoine immobilier détenu par la famille Déby et son entourage en France. Dans sa récente autobiographie, Mahamat Idriss Déby était revenu sur cette affaire, il dénonçait une machination politique et affirmait n'avoir jamais été un adepte des costumes.
Lisa Fabian, 3 morts après des émeutes en Mauritanie au lendemain de l'officialisation par la commission électorale de la victoire de Mohamed Oulcher El Razouani à la présidentielle de samedi. La nuit a en effet été agitée, notamment dans le sud du pays où les forces de l'ordre ont procédé à des arrestations. Le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué, annonce que 2 des émeutiers interpellés sont morts en détention, un troisième plus tard, lui, à l'hôpital. Le ministère n'a néanmoins fourni aucune autre précision sur les circonstances de ces décès. Une nouvelle série de violences meurtrières dans la région anglophone du nord-ouest du Cameroun, région meurtrie depuis 2017 par des violences entre groupes séparatistes et forces gouvernementales. Depuis une semaine, plusieurs incidents ont eu lieu et pour contrer le phénomène, la société civile locale continue d'appeler à sortir de la logique armée des civils, la plupart du temps première victime de ces violences. Les explications d'Amélie Tulé.
Il y a une semaine, mercredi 26 juin, un engin explosif déclenché au passage d'un véhicule tue au moins 2 personnes dans le village d'Oshoum, près de Batibo. Le jeudi, un peu avant 18h, c'est dans Bamenda, la capitale régionale, qu'un homme d'affaires local est directement pris pour cible par des hommes armés à moto qui lui tirent dessus et l'abattent. Le dimanche, un jeune homme meurt à Bamboui, dans la commune de Touba, victime selon plusieurs sources d'une balle perdue lors d'un échange de tirs entre forces gouvernementales et combattants séparatistes. Et entre dimanche et lundi, plusieurs sources confirme que les forces gouvernementales ont intercepté et tué 2 séparatistes dont les corps ont été immolés. Une source sécuritaire déclare que ce sont les habitants qui ont incendié les cadavres. D'autres sources mettent en cause les forces gouvernementales. Une situation globalement alarmante selon Fonso, coordinateur de l'ONG Commune Sud, dont le décompte évalue à une quarantaine le nombre de morts en moins de 45 jours dans la région anglophone du nord-ouest du Cameroun. Selon cet acteur de la société civile locale, le deuxième trimestre aura été plus violent, plus meurtrier pour les civils que le premier cette année.
Amélie Tulé, RFI, 1h38 à Nairobi. La contestation ne s'arrête pas au Kenya. Près d'une semaine après le retrait du projet de loi de finances, texte qui avait mené à des manifestations réprimées dans le sang, la jeunesse a de nouveau appelé à la mobilisation en ce début de semaine. Plusieurs centaines de manifestants ont donc battu le pavé dans le centre-ville de Nairobi. Des jeunes qui se sont vite heurtés aux forces de l'ordre puisque cette fois tout était mis en place pour éviter les rassemblements. Correspondance de Gaël Alex dans la capitale kényane.
Dans les rues du centre-ville ce matin, les policiers en tenue anti-émeute sont légion. Le Parlement, les archives nationales, la Cour suprême sont bouclées, ce qui n'a pas découragé Klaus.
Aujourd'hui, on ne proteste plus contre la loi de finances, mais contre le président. Il doit démissionner. Tant qu'on est pacifique, tout ça, c'est conforme à la Constitution. Il ne nous aide pas. Vous entendez les gaz lacrymogènes ?
Très vite, les forces de l'ordre utilisent gaz lacrymogène et canons à eau. Elvis ne voit là que l'application concrète de tout ce qu'il reproche au président.
Notre gouvernement est aveugle. Il dilapide l'argent. Quand on demande nos droits, on nous gaze, on nous tire dessus à balles réelles. On ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il démissionne. On est une nouvelle génération et on se bat pour nos droits.
Le président William Ruto a lancé ce week-end les préparatifs d'un grand dialogue avec la jeunesse. Pour Paul, tout cela n'est que poudre aux yeux.
William Ruto se prétend ouvert au dialogue, mais il n'écoute rien. Il a donné une interview dimanche et toutes nos préoccupations n'étaient que du vent pour lui. Aucune de nos questions n'a trouvé de réponse. Sur l'usage de nos impôts, sur les assassinats durant les manifestations, même sur le déploiement de l'armée.
La génération Z a prévu une semaine d'action qui devrait culminer dimanche dans une grande manifestation. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
L'actualité en bref, on connaît la date de la prochaine élection présidentielle en Tunisie. Le chef de l'État, Kais Saied, au pouvoir depuis 2019 et dont le mandat touche à sa fin, a annoncé que le scrutin aura lieu le dimanche 6 octobre prochain. La forestation et le reboisement au cœur d'une conférence internationale au Congo-Brazzaville. La forestation, c'est cette action de boiser une zone longtemps restée sans arbres. Et pour cette première édition, plusieurs dizaines d'experts venus principalement des pays du bassin du Congo étaient réunis. L'objectif de cette conférence, faire face à l'urgence climatique. Et c'est notre dossier du jour. Loïcia Martial est à Brazzaville.
C'est la ministre congolaise de l'économie forestière, Rosalie Matondo, qui a prononcé le discours d'ouverture de cette conférence en présence de ses homologues venus du Gabon, du Rwanda ou encore de la Côte d'Ivoire. Leur participation montre, selon la ministre, la prise de conscience face à l'urgence climatique. Deux jours durant, avant les ministres et les chefs d'État, vendredi, les experts vont animer des thèmes liés à la forestation, au reboisement et aux ressources forestières mondiales. D'ores et déjà, ils s'accordent à reconnaître que la principale cause du dérèglement climatique est l'action humaine. Allusion faite à l'activité industrielle ou encore à l'agriculture intensive, responsable aussi de la déforestation et des émissions de gaz à effet de serre, ce qui a pour conséquence, entre autres, les tempêtes, les cyclones, les feux de brousse ou encore l'élévation du niveau de la mer. La meilleure façon de faire face au dérèglement climatique, disent ces experts, est de planter plus de forêts. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Et parmi les participants à cette conférence internationale, on retrouve le docteur Grace Jopol Lubota, enseignant-chercheur en écologie et en gestion des forêts à l'université de Nissasungesso du Congo Brazzaville. Il répond aux questions de Nicolas Sur.
L'intérêt de faire venir la forêt, c'est un double intérêt. La première de choses, la chose la plus capitale, c'est de séquestrer le CO2 atmosphérique à travers le phénomène de la photosynthèse au niveau des arbres. Le deuxième intérêt d'avoir une forêt, c'est augmenter la biodiversité végétale et animale. Et cette biodiversité va fournir ce qu'on appelle les biens et les services aux populations. Alors, ces biens et des services peuvent contribuer à réduire la pauvreté de la population locale.
Ça permet également, j'imagine, de lutter contre l'érosion des sols.
Exact. Donc, dans des sols beaucoup plus mouvants, cette afforestation va aussi permettre de stabiliser le sol pour lutter contre les érosions hydriques.
Au Congo-Brazzaville, comme partout en Afrique, on a besoin de terres pour cultiver, pour se nourrir, de terres agricoles. Comment est-ce qu'on concilie ce besoin avec celui de planter ou de reforester certaines surfaces?
Nous savons très bien que les terres appartiennent aux populations et les populations veulent faire de l'agriculture. Alors, nous plantons en utilisant ce qu'on appelle par le système agroforestier. Nous allons discuter avec la population pour mettre des arbres et en intercalaire, nous allons mettre les cultures pour les besoins agricoles des populations.
De quel type de culture s'agit-il, docteur?
Par contre, nous avons un système agroforestier acacia manioc qui fonctionne très bien, qui a été utilisé en République démocratique du Congo avec des premiers résultats satisfaisants. L'avantage de ce système agroforestier, c'est que la population s'engage à entretenir ces cultures, donc du coup entretenir la plantation pendant les premières années.
On a déjà connu de grands projets de reforestation et de restauration des terres sur le continent. On pense notamment à celui de la Grande Muraille Verte au Sahel qui a du mal à atteindre ses objectifs. Comment est-ce qu'on passe des bonnes intentions à la réalité?
Alors, cette première conférence internationale a pour objectif, entre autres, de discuter avec les partenaires techniques et financiers afin de pouvoir appuyer cette initiative sur la décennie mondiale de la forestation pour attirer les financements climat pour que ces initiatives de la forestation et le reboisement soit vraiment réalisé dans des temps records.
Le docteur Grace Jopol Loubota, invité de Nicolas Sûr dans Afrique Midi ce mardi, entretien complet à retrouver en ligne sur www.rfi.fr, tout comme notre dossier du jour. Moussa Sako a finalement été expulsé vers le Mali, son pays d'origine. Ce jeune homme de 25 ans arrivé en France alors qu'il était enfant, était sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français faute de titre de séjour valable. La semaine dernière, une précédente tentative d'expulsion n'avait pas abouti grâce à la protestation des voyageurs d'un vol Paris-Bamako. Seconde mobilisation ce mardi qui n'aura, elle, pas fonctionné. La police aux frontières est directement intervenue pour faire pression sur les protestataires. Kaourou Magassa revient sur cette affaire.
L'avion de la compagnie Corsair reliant Paris à Bamako est arrivé dans la capitale malienne avec plus d'une heure de retard. La mobilisation pour faire débarquer Moussa Sako sous le coup d'une procédure d'expulsion n'a pas fonctionné. Jouant au téléphone, un membre de son collectif de soutien est encore sous le choc de ce départ forcé.
On est très touché parce qu'on a beaucoup donné. On est persuadé qu'il aurait dû rester, que tout ça, ça résulte d'une profonde injustice et qu'il y a énormément de vices de procédure. Et en même temps, on est touché par le fait que des personnes se soient mobilisées pour lui. Mais d'un autre côté, là, j'ai du mal à réaliser en vrai. On est révolté profondément et très touché pour lui. Et on espère que ça se passera bien pour lui là-bas.
Selon son avocate qui compte faire appel de la décision du tribunal administratif, Moussa Sako ne connaît pas le Mali. Il est arrivé en France à l'âge de 5 ans. À Bamako, il a donc été accueilli par des membres de l'association malienne des expulsés qui fournit de l'assistance à tout migrant refoulé. Ousmane Diarra est le président de l'organisation.
Nous allons voir de quelle manière, avec son collectif de soutien et avec son avocat, pour qu'il puisse rentrer dans son droit. On va essayer de faire un plaidoyer auprès des autorités, les personnes compétentes, c'est-à-dire le ministère ou le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. On verra comment il peut aussi nous aider à faire vraiment repartir de monsieur si c'est possible.
En France, les soutiens de Moussa appellent un rassemblement pour protester contre son expulsion ce mercredi devant la mairie de Montreuil.
Un sujet signé Kaourou Magassa. Et puis du sport et du football, la période des transferts bat son plein pendant cette trêve estivale pour les équipes masculines comme féminines. Et on a appris ce mardi que l'une des meilleures joueuses africaines va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, la Malawite Tabitha Shawinga, désormais une joueuse de l'Olympique Lyonnais après un passage par le Paris Saint-Germain. Cédric De Oliveira.
19 buts en 21 matchs, quasiment un but par rencontre, le chiffre parle de lui-même. La saison dernière, avec le maillot du PSG, Tabitha Shawinga a survolé le championnat de France féminin au point d'en être la meilleure buteuse. Mais elle a dû se contenter seulement de la Coupe de France dans son armoire à trophées. Visiblement trop peu pour l'insatiable avant-centre malawite qui a choisi désormais d'évoluer au sein de l'Olympique Lyonnais, le meilleur club français, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Prêté l'an passé à Paris par le club chinois de Wuhan, Shawinga est cette fois transférée et elle a signé un contrat de 3 ans pour améliorer son palmarès. À Lyon, elle retrouvera la Norvégienne Ada Hegerberg ou encore la Française Wendy Renard. Et les duels avec ses anciennes coéquipières du PSG risquent d'être disputés. Mais à 28 ans, Shawinga, auteur également de 6 buts en 12 matchs de Ligue des Champions, semble avoir les armes pour aider l'OL à rester la référence en France et peut-être lui permettre de retrouver le sommet du foot européen.
Cédric De Oliveira, et on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale de l'Euro 2024 en Allemagne. Ce soir, la Turquie a rejoint les Pays-Bas après être venue à bout de l'Autriche sur le score de 2-1 un peu plus tôt dans la soirée. Vous l'aurez compris, les Néerlandais se sont également imposés. C'était face à la Roumanie, victoire facile sur un score de 3-0. Le programme de ces quarts de finale, donc Pays-Bas-Turquie samedi. Le même jour, l'Angleterre sera opposée à la Suisse. Des rencontres alléchantes dès vendredi pour le début de ces quarts. Espagne-Allemagne à suivre à 16h temps universel, puis France-Portugal à 19h pour une place dans le dernier carré. Les principaux titres de l'actualité. Viktor Orban à Kiev ce mardi. Le Premier ministre hongrois est désormais président en exercice de l'Union européenne. A appelé le chef de l'État ukrainien à envisager un cessez-le-feu dans le cadre du conflit avec le voisin russe. Volodymyr Zelensky a lui demandé à Viktor Orban de rejoindre les efforts de paix ukrainiens. 474 personnes arrêtées en Turquie après des émeutes antisyriennes dans plusieurs villes du pays. Des manifestations de violence déclenchées à la suite de l'arrestation d'un Syrien soupçonné de harcèlement sur une enfant de son entourage. Annonce faite ce mardi par Ali Yerlikaya, ministre de l'Intérieur. Suite des bombardements dans la bande de Gaza ce mardi par l'armée israélienne qui, selon les Nations Unies, a émis de nouveaux ordres d'évacuation qui concernent environ 250 000 personnes. Et puis aux Pays-Bas, la prestation de serment du nouveau gouvernement, plus de 7 mois désormais après une victoire électorale majeure de l'extrême droite aux législatives. Dick Schoof occupera le poste de Premier ministre. Les législatives et le second tour du scrutin en France. Également, ce soir, c'était la fin du dépôt des candidatures. Plus de 210 désistements enregistrés après la large victoire de l'extrême droite ce dimanche. Notre dossier Afrique Éco du jour, direction la Centrafrique où saison des pluies rime avec saison des mangues. Cette période qui s'étend généralement de mars à juin est une véritable aubaine pour les Centrafricains qui possèdent des manguiers, un commerce qui permet d'alimenter ménages et petits commerces. Le sujet est signé Rolf Steph Domialeux depuis Bangui.
Des mangues mûres sur toutes les branches. Dans ce champ de 20 hectares à proximité de Bangui se trouvent 7 manguiers. En Centrafrique, pas de grandes plantations. Armand Koulayom, le propriétaire et entrepreneur, profite du bénéfice de ces mangues en les revendant à un grossiste.
Vraiment, chez nous, chaque ménage a quand même un ou deux manguiers dans la concession. Donc ça, on peut dire que c'est une bénédiction pour la RCA. Et pendant l'époque des mangues comme ça, les mangues sont trop moins chères.
À quelques pas de ce champ, au bord de la route, les mangues sont vendues dans des cuvettes, des bassines, des sacs ou étalées sur des tables pour attirer les clients. Les prix varient selon les variétés et les grosseurs. Juvenal est un vendeur de mangues.
Comme vous voyez, je vends un tas de 5 mangues à 50 francs CFA. Tous les jours, les revendeuses viennent acheter mes mangues dans des sacs et des cuvettes. Il y a plusieurs modèles de sacs et chez moi, les prix par sac varient de 5 à 7 000 francs CFA.
En Centrafrique, la cueillette se fait de manière artisanale. Certains utilisent des bâtons au bambou, d'autres préfèrent grimper directement dans l'arbre. Julienne, une commerçante, profite de cette période pour développer d'autres affaires.
Chaque jour, je gagne entre 4 000 et 4 500 francs CFA. En 12 jours, je m'en sors avec 50 000 ou 55 000. Cet argent me permet de couvrir les besoins de ma famille. Je fais aussi de l'épargne qui me permettra de me lancer dans un autre commerce durable après la saison des mangues.
Mais à Bangui, il se pose un problème de conditionnement. Il y a peu de chambres froides pour conserver les fruits et il n'existe pas d'entreprise de transformation. Armand Koulayom estime que ce secteur est plein de potentiel.
Pour relancer ce secteur, on dit qu'il faut avoir une vision. Il faut chercher des opportunités de crédit. On demande même au gouvernement de chercher des possibilités au niveau de Banque mondiale, au niveau des banques pour accompagner déjà ceux qui font dans les transformations des jus naturels en mangue, des confitures en mangue, pour les accompagner d'avoir des machines pour faire ça d'une manière industrielle et exporter pour développer notre pays.
Ce secteur encore très informel et limité représente cependant aujourd'hui une source de revenus importante pour de nombreux ménages. Rolf Steph Domialeux, Bangui, RFI.
Il vient d'arriver dans ce studio, vous avez déjà reconnu son générique, c'est Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Nemo, bonsoir à nos auditeurs.
Hervé, lorsque vous êtes là, on prépare nos bloc-notes pour enrichir nos playlists des vacances et vous ouvrez votre chronique avec la chanteuse haïtienne Darlene Desca.
Darlene Desca, oui, qui poursuit l'exploitation de son album Face à Face, bien qu'il se soit écoulé un peu plus d'un an depuis la sortie de cet opus, très bien accueilli par le public, ceci dit. Cette fois, c'est avec le single This Love qu'elle compte nous faire danser, elle qui est devenue une artiste incontournable de la scène caribéenne ces dernières années.
Wagade makade, aswe abakenda minage. Wagade makade, ou brésil mouèvle makè danger. Sous sa soufra,
Après Darling Desca et son ambiance caribéenne, voici le rappeur Soprano qui nous plonge dans le rythme de l'océan Indien.
Soprano est plus motivé que jamais à nous faire bouger durant les prochaines vacances et pour ce faire, il dégaine le Mbaba, un titre amapiano avec une touche urbaine qui plaira au public du continent et aussi à la diaspora. Le rythme est efficace et les paroles le sont tout autant. Pour info, Mbaba est un des surnoms de Soprano dont le véritable patronyme est Saïd Mbaba.
Mbaba est sapé, Mbaba est capé, Mbaba est soigné, Mbaba est tracé. Mbaba est concentré, Mbaba est diamanté, Mbaba est BG, Mbaba est chargé.
Rapapapa, rapapapapapapa, rapapapapa, rapapapapapapa, rapapapapa, rapapapapapapa, rapapapapa, rapapapapapapa.
Notez que cette chanson de Soprano figure en très bonne place dans les tendances musicales de la semaine. À présent, direction Sao Tomé avec le groupe Kalema et le chanteur Taek.
Kalema et Taek ont profité de la fête de la musique pour dévoiler leur morceau commun « Dis-le-moi ». Une collaboration inédite, restée longtemps cachée. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, le titre « Dis-le-moi » est accueilli timidement par le public qui semble ne pas être emballé par le projet, même si le produit est de bonne facture. Un faible démarrage pour les mastodontes que sont Kalema et Taek, habitués des gros chiffres. On observe les mouvements dans les tendances ces prochaines semaines.
Où tout est tracé, tout est déjà tracé. Trop longtemps je ne dors pas la nuit, tu ne mérites que mes larmes. Et tellement glacé, ton corps est si glacé. Dis-moi juste que tout est fini, puis je déposerai les armes.
Et pour terminer cette chronique en beauté, Hervé, direction les plages de la Guinée équatoriale avec la chanteuse afropop Vaniakar.
Vaniakar, de retour en duo avec son compatriote Romy Solove. Tous les deux s'identifient à l'afrobeat et ses sous-genres. Pour votre gouverne, sachez que Vaniakar n'avait encore rien publié depuis le 17 juin 2023 et le titre Kwata. Elle ouvre donc son compteur personnel de l'année en dévoilant Totori, chanté en anglais et en français pour se rapprocher du public anglophone, un marché difficile à pénétrer en temps normal. Espérant que Vaniakar et Romy Solove atteignent leurs ambitions musicales et c'est la Guinée équatoriale.
I can dehi a this boy for radio. E blow me mind, culo me hato, ginger me senso.
C'est toujours un plaisir de découvrir vos sélections, mon cher DJ Facemaker. Et je rappelle qu'on les retrouve dans l'Afro Club de RFI Musique. On vous retrouve jeudi à ce micro.
Merci Nemo et je salue nos auditeurs de Lomé bien câblé sur la fréquence 91.8. À jeudi.
Con ese sentimiento me siento cool. Where the way you are the golden fool. You go for me like a bad man do. Within the good, na go de loo. Only thing you go do me body, yeah. Do me your queen or do me connie, oh.
Ici à Paris, c'est la fin de cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à Wafanour à la réalisation, avec Penaï Traoré à la rédaction en chef, à Guillaume Bédrane, attaché d'édition. Dans un instant, un nouveau journal. Il sera 1h à Paris et vous retrouverez Arthur Ponchelet.
ego loco, ego just dego. Me with you go de cham di lovo. Kulu mi hato do do do. Ego enta mi poco poco. Ego loco, ego just dego. Me with you go de cham di lovo.